une présentation avec un public dos tourné. Alors c'est intéressant. Ceux qui sont au dernier rang, il faut que vous sachiez que je vous vois au premier rang. Hein. Donc bon.
On voit tout ce qui se passe, hein, les gens qui.
Alors ma présentation, ça va être sur ce concept d'adaptation au changement climatique, et je me suis intéressé à cette expression vraiment au sens sémantique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange une fois qu'on arrive dans l'opérationnalisation? Donc en fait, le constat peut être résumé dans cette courte phrase qui est dans la stratégie nationale de l'ONERC, qui est donc à la page 17, un peu cachée au milieu de quelques paragraphes. La notion d'adaptation demande encore à être affinée pour rendre ce concept vraiment opérationnel. Alors à partir de ces constats-là, je suis allé voir en fait la démarche participative du plan climat de Paris. Donc le plan climat de Paris a été élaboré à partir de conférences, de débats publics et surtout d'ateliers thématiques dont un s'est intéressé au volet adaptation du territoire à l'évolution du climat. Et chaque atelier a duré 4 séances et puis a fourni des ébauches de réflexion qui ont donné dans un premier temps le livre blanc et puis qui a donné à travers un résumé finalement du livre blanc le plan climat parisien. Donc une vraie démarche participative. Donc je suis allé voir les gens qui avaient participé à cet atelier H pour essayer d'en tirer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au terme de cet atelier. Alors il faut savoir qu'il y avait à peu près une vingtaine de personnes et chaque personne est arrivée avec son propre bagage cognitif, c'est-à-dire sa propre représentation, son savoir sur le thème de l'adaptation. Et puis pendant 4 séances, il y a eu des interactions, il y a eu des jeux de pouvoir entre guillemets, c'était pas une question de pouvoir, mais des jeux humains finalement, sociaux, dans le but d'essayer de réfléchir autour de ce concept. Donc en gros, l'atelier H, qu'est-ce que c'est? C'est personne en tout pendant 4 séances, fin 2006. En fait, 30 personnes, pas exactement. Il y a eu vraiment 22 participants qui ont réfléchi à la question. Il y a eu deux modérateurs. Il y a eu des observateurs qui étaient là à titre passif, juste pour observer si ça se passait bien. Et il y a eu trois instigateurs, hein, un porteur politique, un porteur technique de la ville de Paris, puis un porteur technique dans le sens où c'était un consultant engagé pour la bonne démarche de l'approche participative. Donc le profil des participants, ça ressemblait en termes d'âge à beaucoup de personnes compris entre 21 et 30 ans, et puis après le reste, il y en avait, c'était bien ventilé on va dire. Au niveau des secteurs présents, il y avait du privé, du public, une ONG, et il y avait des gens de la ville de Paris aussi, et il y avait également des étudiants. Au point de vue de la diplomation, c'était plutôt des gens qui possédaient une maîtrise, voire un doctorat, voire même des ingénieurs. Et il y avait une représentation féminine un peu plus importante que masculine. Autre chose importante dans le processus de réflexion, c'est que durant ces 4 séances, forcément, il y a eu une participation différente selon les individus. Il y a eu des gens qui sont restés pendant vraiment les 4 séances, et il y en a qui sont venus juste une fois, parfois pour donner leur avis, parfois pour rien dire du tout. Et donc, ça a teinté également quand même les réflexions. Au niveau des secteurs, il y a eu à peu près 4 personnes de la ville de Paris. Il y a eu des secteurs publics, du genre organismes publics comme l'ADEME ou des gros organismes publics sur l'environnement. Il y a eu des représentants de grosses multinationales, que ce soit Veolia Environnement, EDF, surtout relié à l'énergie en fait. Il y a eu du privé, du privé P que j'ai appelé, c'est-à-dire petit privé, c'est-à-dire c'était surtout des consultants. Des associatifs, des ONG, il y en a eu beaucoup d'étudiants qui étaient surtout des étudiants en sciences du climat. Donc tout ça, oui, alors, et dans le profil des participants, quelque chose à retenir aussi, c'est qu'il y a eu des volontaires qui étaient motivés professionnellement, c'est-à-dire par exemple des gens qui représentaient les multinationales, donc un peu pour porter le chapeau professionnel et défendre un peu leurs intérêts. Il y a eu des volontaires à motivation plutôt personnelle parce que le sujet les intéressait tout simplement, et il y a eu des gens qui était désigné par la hiérarchie, donc il n'y avait pas vraiment le choix, quoi. Donc tout ça, c'était à peu près ventilé un tiers, un tiers, un tiers. Et puis, tous ces gens ont eu le choix de choisir, enfin, pour certains, l'atelier H. Donc certains ont choisi l'atelier H effectivement comme premier choix, et il y en a qui n'ont pas choisi cet atelier mais un autre atelier et qui ont été dispatchés dans cet atelier H. Et il y en a qui n'ont pas eu de choix, qui se sont retrouvés là parce qu'on les a vraiment désignés. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est que les principales contraintes évoquées à l'atelier H, c'est qu'il y a eu une participation éclatée, c'est-à-dire il y a eu des désignés, des volontaires, ça s'est senti dans les réflexions, dans les interactions. Il y avait après un petit souci au niveau de la gestion du groupe, il y a eu des objectifs un peu mal expliqués et mal compris, mais surtout ce qui ressort dans les contraintes, c'est qu'il y a eu une difficulté à cerner le thème, à cerner sur quoi on réfléchit finalement. Alors, ça se concrétise par ces petits extraits. Je peux peut-être citer juste le premier et le dernier. Le premier, une personne m'a dit en entrevue, on a essayé de les réorienter en parlant des participants vers certains ateliers qui suscitaient le moins d'enthousiasme, parmi lesquels celui de l'adaptation. Effectivement, c'était le moins garni des huit ateliers. Et puis, le dernier extrait est aussi très évocateur. Toute la première séance a consisté à bien intégrer le thème de l'adaptation, à poser les contenus, les enjeux que cela recouvre en évitant de confondre adaptation et atténuation. Toute la difficulté était là et on a buté sur cette difficulté. Donc finalement, sur les contraintes évoquées concernant le thème de l'adaptation, pourquoi ont-ils buté sur ça? Ce qu'il en ressort, c'est que les participants m'ont dit que tout d'abord, il y a eu une diversité des participants trop large. Il y avait des gens qui travaillaient aussi bien en énergie, il y avait des gens qui travaillaient en aménagement du territoire, il y avait des gens qui travaillaient en biodiversité. Et apparemment, ça a gêné pour essayer de réfléchir autour de ce thème de l'adaptation. Ensuite, tout le monde s'est aperçu que personne n'avait jamais entendu parler de ce thème. C'est une nouveauté, c'est un sujet en émergence. Tout le monde donc a essayé de réfléchir et à se raccrocher à ses propres savoirs, mais en tous les cas, qui n'étaient pas ceux de l'adaptation. Il y a eu des dimensions inattendues, comme notamment les dimensions que certains ont appelées sociales, c'est-à-dire quand on s'intéressait aux personnes ou aux populations vulnérables, apparemment, ce n'était pas aussi évident que ça que l'adaptation comprenait ce genre de dimension-là. Il y avait plusieurs personnes qui pensaient que dès qu'on parlait d'adaptation, on parlait d'aménagement de territoire, on parlait de choses structurelles, on parlait de digues, en fait, quoi. Il y a eu aussi ce chevauchement conceptuel entre adaptation et mitigation qui n'a pas été clair. C'est quoi une adaptation par rapport à c'est quoi une mesure de mitigation? Et du coup, ça a gêné dans la transversalité avec les autres ateliers, c'est-à-dire quand on abordait le thème, le secteur du bâti. Déjà un atelier qui s'intéressait à ça, au bâti. Donc la question était, est-ce que vraiment on doit réfléchir sur ça ou est-ce que c'est l'autre atelier qui doit réfléchir sur ça? Quand j'aurais demandé, mais finalement, qu'est-ce que vous voyez dans l'adaptation? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y a eu cinq grands thèmes qui sont ressurgis, et les quatre premiers sont opposés, en fait. C'est-à-dire que les deux premiers sont opposés. Le premier, ça peut être l'adaptation vue comme c'est quelque chose d'immédiat. C'est une prise de décision immédiate face à un futur qu'on sait incertain, mais qui se dessine. Mais chose est sûre, on a assez de savoir pour agir. Donc vraiment, l'adaptation, c'est agir. Et à l'opposé, d'autres personnes qui disaient « Non, il y a un besoin vraiment d'une réduction de l'incertitude avant la prise de décision. On ne peut pas agir sans savoir qu'est-ce qui nous attend. » Donc, on voudrait qu'il y ait quand même plus d'études, plus de précision sur les impacts notamment. Les deux autres mentions, c'était l'adaptation, c'est changer les modes de vie, les modes d'organisation, les comportements. Donc là, on est vraiment dans le social, on va dire, quoi. Tandis qu'à l'opposé, c'était l'adaptation inclut la capacité à réduire les émissions de GES. Donc là, il y a un chevauchement avec la mitigation. Donc là, on n'est plus vraiment dans ce qu'on entend dans changer les modes de vie en termes adaptatifs, mais plus en termes d'efficacité, réduire les gaz à effet de serre. Donc il y a quand même un chevauchement. Tout ça n'est pas clair, mais on va y revenir après. Et puis enfin, il y a une dernière mention qui était assez frappante, mais qui avait son pendant opposé également, c'était que l'adaptation représente une résignation, c'est la fin de la lutte, c'est un aveu d'échec même du système au complet. Il y en a qui étaient très pessimistes. Et par contre, il y en a d'autres qui disaient non, au contraire, l'adaptation, c'est une opportunité, c'est le moyen d'arriver, par exemple, à un développement durable. Donc il y avait des liens qui étaient mis sur quelque chose de plus axé sur un virage, sur un tournant. Alors pourquoi on est arrivé là? Une des raisons, c'est que l'adaptation, le terme a une ambiguïté sémantique très profonde. Quand on va chercher dans le petit Robert, qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation? Il y a deux définitions. La première, c'est que c'est une action d'adapter. La deuxième, c'est que c'est la modification qui en résulte. Donc, en gros, on est, ça veut dire à la fois quelque chose qui est évolutif, qui est continu, qui est donc l'action, et quelque chose qui s'arrête, qui est figé, qui est le résultat de cette action. Donc, par exemple, en psychologie, la faculté d'adaptation, c'est l'aptitude d'un individu à modifier sa structure, son comportement, pour répondre harmonieusement à des situations nouvelles. Donc, on est en permanence, nous-mêmes, en processus d'adaptation. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voyait bien, avec nos soucis techniques, on est en adaptation continue. Et nous sommes dans un bâtiment qui est une adaptation figée au climat. Dehors, il neige toujours. Et merci. Donc, on essaye d'évoluer avec ça, avec cette perception de stabilité, mais dans une dynamique continue, dans une évolution. Donc, ça amène plusieurs chevauchements entre des concepts comme l'évolution, justement. Donc, évolution, adaptation, changement. Qui dit adaptation dit forcément changement. Donc, il y a un processus continu. Et en même temps, quand on parle d'adaptation au changement climatique et qu'on veut une mesure précise en milieu urbain, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça devient donc très complexe. La deuxième ambiguïté, c'est quand on regarde le glossaire du GIEC, du quatrième rapport, à la définition d'adaptation, on retrouve atténuer. Donc, on retrouve finalement les deux réponses, atténuation et adaptation, dans la même définition d'adaptation. Donc, ça mélange un peu, il y a une certaine confusion entre les termes, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. D'ailleurs, en anglais, atténuer dans cette définition, c'est plutôt moderate, donc c'est légèrement différent. Donc, on pourrait imaginer que finalement, l'atténuation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, on s'atténue, c'est un processus d'atténuation des impacts, donc dans le sens... je ne sais pas. Il faut que je réponde oui, non. La connexion, voulez-vous basculer en vitesse de partage bande passante faible? On fait un vote?
Non, on va simplement fermer la fenêtre en haut.
Allez, voilà, oui, voilà.
Sous le tapis.
Dans le doute, on s'abstient.
Voilà. Ouais. Donc, dans l'atténuation, est-ce qu'on atténue les impacts dans le sens protection ou est-ce qu'on atténue nos émissions de gaz à effet de serre dans le sens donc réduction de gaz à effet de serre? Et si on combine les deux, finalement, on atterrit à adaptation, c'est-à-dire on s'adapte face aux impacts, à la protection, mais on adapte aussi nos comportements en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, les deux sont mêlés. Et d'où l'importance peut-être de préciser ces termes ou en tout cas d'en trouver d'autres. Et et donc ça remet un peu en question les deux réponses qui étaient présentées par le GIEC depuis 10 ans, c'est-à-dire à savoir face au changement climatique, nous avons deux réponses bien distinctes, la mitigation qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui agit sur les causes finalement, et l'adaptation, qui est d'ajuster les systèmes aux effets, qui agit sur les conséquences. Donc on peut remettre peut-être ces réponses-là en question pour essayer de plus les imbriquer, pour voir qu'entre les deux, il y a quelque chose. Alors j'ai appelé ça adaptation mitigative, on aurait pu dire des mitigations adaptatives, donc bonnet blanc, on ne sait pas trop. Mais par exemple, on peut, alors concrètement, si je prends un exemple, est-ce que la mise en place d'un tramway en milieu urbain est une adaptation ou une mitigation? On pourrait dire que c'est une mitigation parce qu'elle enlève des autos et donc il y a moins de gaz à effet de serre, mais on pourrait se dire aussi que c'est une adaptation tout simplement, c'est-à-dire qu'on change, on modifie nos façons de transporter les gens de façon à être plus adaptés justement à la situation d'urgence de lutte contre les changements climatiques. Donc tout ça pour dire que peut-être que le concept de vulnérabilité est quand même plus précis. Le concept de vulnérabilité qui inclut donc ce qu'on appelle la capacité adaptative, donc on l'a vu dans les présentations précédentes, qui inclut de nombreux paramètres comme l'accès à l'information, l'existence de capital social ou des choses comme ça, et puis face au changement climatique, l'exposition de cette capacité adaptative, donc d'un territoire on va dire, ou la sensibilité face aux impacts qui peut arriver, quoi. Donc, tout ça a été rendu concret par le plan de Chicago, qui est sorti en 2009. Et justement, on retrouve tout ça. Donc, ce n'était pas pour lire parce que c'est écrit trop petit, mais il y a des exemples en mitigation, il y a des mesures, je veux dire, en mitigation, il y a des mesures en adaptation, et il y a des mesures qui sont entre les deux, qui sont exactement au milieu. Donc, par exemple, la ventilation naturelle des immeubles, ou le plan de gestion de la forêt urbaine, ou en tout cas des jardins urbains, fait partie de ce milieu entre la mitigation et l'adaptation. Voilà. Donc tout ça, ça faisait partie de mes recherches d'un doctorat entre Paris, Montréal, sous la direction de Monsieur Lepage et Madame Blanc, et puis voilà.